Donc je suis très heureux de vous retrouver. Alors c'est pas fait exprès, mais en fait c'est moi qui ai ouvert le confinement avec le premier message confiné. Et c'est moi qui débute la réouverture officielle. Donc c'est bien, comme ça fait un peu entrée-sortie, une boucle. Merci Bruno, je sais pas si on avait fait exprès, mais écoute, c'est conduit comme ça. Et je suis très heureux de vous revoir, soit avec vos jolis masques, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes, soit via les réseaux pour ceux qui regarderont la vidéo. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse partager quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur par rapport à ce qu'on a vécu pendant ce confinement. On pourrait s'interroger sur finalement c'est quoi ce confinement, qui était à l'action de ça, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est une action de Dieu qui vient nous marteler un bon petit coup pour nous rappeler à lui. Moi, je pense que ce n'est pas les interrogations qu'on va avoir, et puis que si on pense ça de Dieu, c'est qu'on a sûrement encore des choses à découvrir sur qui il est vraiment, parce que ce n'est pas sa manière de fonctionner. Par contre, j'ai une chose intérieurement sur laquelle je suis persuadé, c'est que quelles que soient les circonstances qu'on vit, Dieu est souverain. Et je crois vraiment profondément, et le Saint-Esprit m'a vraiment parlé sur ça pendant cette période, que dans ce qu'on vit actuellement, Dieu veut nous faire découvrir certaines choses et le Saint-Esprit veut nous refaire découvrir certaines choses. J'ai entendu beaucoup qui disaient « j'espère qu'on va pouvoir reprendre comme avant ». Alors, pas à Bezalel, hein. Non. Mais j'ai entendu beaucoup sur les réseaux qui disaient « j'espère qu'on va pouvoir reprendre l'Église comme avant ». Eh bien, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je n'ai pas envie qu'on reprenne comme avant. Je suis très heureux de vous retrouver, mais je n'ai pas envie qu'on reprenne comme avant parce que dans ce qu'on vit là actuellement, Dieu n'est pas un Dieu qui marche en arrière. Dieu est un Dieu de croissance. Et si on a vécu ça, si on a vécu ce confinement, c'est qu'on a quelque chose à en apprendre, c'est qu'il y a quelque chose pour nous derrière. J'ai envie de vous demander quelles ont été vos réserves pendant le confinement. C'était quoi vos réserves? Alors si on regarde le peuple français, c'est pour ça que j'ai mon petit sac, l'une des réserves principales, c'était ça. Une autre réserve, ça a été ça. Ça va, c'est pas si tout le monde voit, une petite boîte de conserve. J'ai entendu le paquet de pâtes. Oui, tout à fait, ça a été un des achats. Quand on regarde ce qui a été le plus acheté, c'est le numéro 2 ou 3, je crois, ça. Bon, je vais cacher la marque pour ne pas faire de pub. Et puis, il y a eu la farine, on a eu d'autres choses comme ça, mais ça a été les réserves des Français. J'ai vu d'autres réserves, l'argent. Il y a une étude qui a été faite, les Français ont économisé 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros juste pour la France. Hein. Et alors, la grande question des chercheurs, c'est de se dire, mais il faut absolument que les Français redépensent pour relancer l'économie. Mais j'ai vu des choses aussi plus complexes, plus dur. J'ai vu des réserves qui étaient ancrées dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Des gens même que je connais qui sont chrétiens, d'autres qui étaient mes collègues de travail peut-être. J'ai vu aussi du déni, du manque de sagesse, de la colère par rapport à ce qu'on vit. Et on en voit encore de la colère là actuellement. Et même dans le déni et le manque de sagesse, j'ai pu lire et voir des choses mais qui moi m'ont profondément heurté à la fois en tant que fils de Dieu, et d'autant plus, vous le savez, je suis infirmier, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées que vous n'avez pas vues dans les médias. Et Bruno, merci pour la recommandation, mais gardez vos masques dans les milieux confinés, dans les magasins, tout ça. Le virus, même si les chiffres baissent à l'hôpital, il circule encore. Hein. Et dans le Nord, il faut le savoir, on en partage avec Bruno, on est dans les régions où il y a encore un nombre de détections très élevé. Ça ne veut pas dire que les gens passent à l'hôpital et en réanimation, mais il y a encore des zones, même de petits clusters. Là encore, hier, j'ai appris que sur une partie de la région, il y a une zone qui est encore bien atteinte. Et dans ces circonstances, j'ai envie qu'on puisse réfléchir ensemble, finalement, à qu'est-ce qui doit faire profondément nos réserves, à nous, en tant que croyants. Et c'est pour ça que le partage l'a intitulé « Enraciné et aligné ». En qui, en quoi on doit être enraciné? Il y a un verset qui a été très fort sur mon cœur au début du confinement, et que j'ai entendu aussi repartager par d'autres pasteurs, des prophètes aussi. C'était le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et souvent, quand on lit ce psaume et qu'on le vit, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir la lumière sur le sentier, parce qu'au moins, on sait où on va. Mais je pense que pendant le confinement, Dieu a cherché à beaucoup plus être cette lampe à nos pieds et cet éclairage intérieur. Et cet éclairage intérieur, il est là pour venir questionner finalement qui je suis, mais aussi qui nous sommes en tant qu'épouse, en tant qu'Église, en Christ. Quelle est notre compréhension de qui il est vraiment ? Est-ce qu'on vit la véritable relation à laquelle il nous appelle ? Ou est-ce qu'au contraire, on n'en a pas fait, et je me mets le premier peut-être dans ça, je ne veux pas vous culpabiliser ou vous accuser ce matin, ce n'est pas du tout mon objet, mais est-ce qu'on n'a pas mis par moment Dieu dans un format de petite boîte et dans des petites cases qui correspondent à l'image qu'on voudrait de lui plutôt qu'à l'image de qui il est vraiment ? Est-ce que nos racines sont clairement et profondément ancrées en lui ? Parce que la peur, l'angoisse, la colère, désolé de vous dire ça, mais l'inspiration, elle ne vient pas de Christ. Elle vient de l'autre côté, elle vient du diable. Il n'y a qu'un seul chemin pour trouver son enracinement, et il est au travers de Jésus. Et votre enracinement ne peut que se trouver dans la parole de Dieu qui a été révélée et accomplie par Christ. Je vous montre une petite vidéo. Il n'y a pas de parole, c'est juste du son, vous allez voir, et ça reprend un passage biblique. Alors vous aurez reconnu, je pense, pour ceux qui l'ont déjà lu, la parabole du semeur. On ne va pas la relire en entier, je vais juste prendre l'explication que donne Jésus de cette parabole. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Ce passage, il nous interpelle finalement justement sur où est-ce qu'on a planté nos racines. Est-ce qu'elles sont réellement en Christ et dans une relation avec le Père ? Où on se considère comme fils, fille de Dieu et conduit par l'Esprit ? Ou alors est-ce que ma relation est fondée sur des mensonges, comme je disais, sur une forme de cadre, sur des éléments qui font que dès qu'il va y avoir par exemple un Covid-19, à un moment donné, je vais me retrouver mais complètement à la ramasse, sans aucune réserve. Dans nos églises évangéliques, ça arrive qu'on critique d'autres croyants, notamment les catholiques, pour un côté qu'on estime parfois très religieux. Mais parfois, est-ce qu'on n'est pas devenu nous-mêmes aussi très religieux dans notre manière d'être ? Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, mais j'espère que votre vie ne se résume pas à ce bâtiment. Parce que si votre vie avec Christ dépend de ce bâtiment, à un moment donné, je suis triste pour vous parce qu'il y a une autre relation qui existe. Et c'est de ça dont je veux vous parler à la suite. On a un appel en Jésus. Ce n'est pas un appel pour être dans le faire et dans l'avoir, comme on l'a vu au début sur nos réserves, mais on a un appel à être. Et je pense profondément que dans ce qu'on est en train de vivre, il y a un rappel de la part du Père sur le fait d'être avec lui. À quoi on reconnaît le fait d'être aligné en Dieu le Père. Ben, la première étape, c'est la conversion. Ça, c'est l'étape clé, initiale. Vous êtes libéré de la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort, au travers du sacrifice de Jésus, au travers du cadeau qu'il nous a fait à la croix, en allant vaincre la mort, en allant vaincre Satan. Mais il y a plus. Et on est appelé à vivre le plus. Parce que Jésus, quand il est parti, il nous a dit qu'il nous envoyait un appui, un ami, un consolateur, le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit aussi au travers de Romains 7, verset 6. « Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. » La loi, ça nous condamne, et si on essaye de faire que par nous-mêmes en se mettant des lois dans la vie, tu dois, tu ne dois pas, 100% de chance de courir à l'échec. Et Jésus est venu transformer ça en disant « Je vous libère de ce poids-là, je suis conscient que vous allez encore pécher. Moi-même, je vais encore pécher, je pêche encore. Mais je vous apporte le Saint-Esprit qui est là pour vous accompagner et travailler en vous au plus profond de vous-même par rapport à ces racines qui sont enfouies en vous et qui continuent par moments à vous entraîner vers le péché. » Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'étape qu'on est tous appelés à vivre après notre conversion, c'est la sanctification. Et ça, ça se joue par ma relation au Saint-Esprit et c'est ce qui va m'amener à une véritable liberté. Pas liberté de faire n'importe quoi. Non, une vraie liberté qui va venir enlever en nous les racines qui ne sont pas celles alignées avec le plan de Dieu pour notre vie. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et le Saint-Esprit va venir travailler en vous, en profondeur, pour aller dans ces racines de votre cœur, pour que le péché ne vienne pas se réinstaller. Et ça, c'est un travail de toute une vie, j'ai envie de dire. Tant qu'on est ici-bas, on est appelé à ça, à vivre ça. Et souvent, on peut se dire « mais j'aimerais bien être libéré d'un seul coup de ça ». Ça peut, parce que le Saint-Esprit peut agir comme ça. Il est suffisamment, on a chanté « Dieu est un Dieu puissant ». Il peut agir comme ça, il y a des personnes, ça va être comme ça. Et pour d'autres, on va passer par un cheminement, parce que du coup, le Saint-Esprit veut nous amener sur un chemin où on comprenne un sens profond de ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir après en être témoin auprès d'autres. Moi, il y a des choses dans ma vie, j'ai vécu des délivrances soudaines et pour d'autres, mais ça a mis des mois, voire des années. Puis je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas agi d'un seul coup? Et le Saint-Esprit m'a profondément parlé en me disant, mais là, sur ce que tu es en train de vivre, je t'amène sur un chemin parce que je veux qu'après, tu sois capable d'en parler à ceux qui ont vécu ça. Qu'est-ce qui va permettre de reconnaître cet alignement et le fait que nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Tout d'abord, mon identité. À partir du moment où on donne sa vie à Christ, on a accès au Saint-Esprit et on n'est plus considéré comme étant abandonné. On est considéré comme fils et fille de Dieu le Père, adopté en Jésus. Je ne sais pas si vous avez confiance, mais on dit Jésus le Fils de Dieu. Vous avez le même statut, vous êtes considéré comme les fils et les filles de Dieu le Père. C'est pour ça que Jésus nous a dit qu'on est appelé à faire des choses bien plus grandes que ce qu'il a fait ici-bas. Nous sommes morts et ressuscités et désormais nous marchons dans la victoire de Christ et nous avons accès au Père et au royaume de Dieu et à tout ce que représente ce royaume. Et on est appelé à être ses ambassadeurs ici-bas du royaume. C'est ce qui est dit dans Romains 8. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Ce n'est pas dit si par moi-même, je m'arrange pour arrêter les actes que je fais, c'est bien dit. si par l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Ça, c'était l'état sous la loi. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des filles adoptives de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous citons et nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. L'autre axe qui fait que nous sommes alignés dans le Saint-Esprit, c'est le fait de porter du fruit. C'est ce qui est dit dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Et au verset 25, il est dit « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Vous êtes appelés à vraiment vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une école de la vie, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Hein. Dans la parole de Dieu, c'est dit... Le Saint-Esprit, c'est comme une personne. D'ailleurs, dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que le Saint-Esprit est capable de ressentir aussi des émotions, il est capable de vous parler, puis de vous conduire. Et c'est quelqu'un de très pédagogue, le Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui vient vous mettre un tacle comme ça d'un seul coup. Il va vous interpeller, il va, à partir du moment où vous commencez à le connaître, petit à petit, eh bien, vous allez croître avec lui et vous allez apprendre à l'écouter et vous allez grandir avec lui. Pour reprendre les fruits, il y en a un qui est au centre de tout, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, à un moment donné, il n'y aura pas de manifestation de la puissance de Dieu. On trouve ça dans Matthieu 22, hein, où il est bien dit qu'à un moment donné, les commandements les plus importants, c'est celui de placer Dieu en premier, de l'aimer de tout son cœur, et également d'aimer son prochain comme soi-même. Et ça, c'est ce qu'on est appelé à être individuellement, mais aussi en tant qu'Église, ici-bas. Des porteurs d'amour, des démonstrateurs de l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et ce verset, il est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans amour, il n'y a pas d'espérance. Si Christ n'avait pas eu de l'amour pour nous, il ne serait pas allé jusqu'au bout à la croix et on n'aurait pas eu cette espérance. Et sans espérance, il n'y a pas de foi. La foi, c'est croire en des choses qui ne sont peut-être pas encore visibles. Donc ça veut dire espérer. Si on n'a pas ces trois éléments, on n'a pas l'expression du royaume de Dieu. Parce que la foi, c'est aussi ce qui amène les miracles. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On est appelé à être plein de joie, plein de reconnaissance. On n'est pas appelé à être critique, tout le temps dans la plainte. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes continuellement dans la plainte, vous êtes en train aussi d'éteindre ce que le Saint-Esprit voudrait accomplir. Quand on commence à être dans la joie et la reconnaissance, vous êtes en train de faire trembler l'ennemi, vous êtes en train de faire trembler les démons, vous êtes en train de faire trembler l'enfer. C'est une clé pour voir s'accomplir par l'Esprit et dans l'amour la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous éclaire pour être ensuite des porteurs de lumière dans ce monde avec des réserves solides, pour être des porteurs d'espérance et pour être ces ambassadeurs du royaume et qui portent les valeurs de ce royaume. Qu'est-ce qui peut me bloquer ? J'en arriverai à la conclusion avec ça. Ce qui peut me bloquer, ça peut être une identité qui n'a pas été révélée, justement, par le Saint-Esprit. Peut-être que j'ai fait une première démarche de me tourner vers Christ, mais est-ce que j'ai été jusqu'au bout de dire « Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce qui a besoin en moi d'être aligné. Qu'est-ce que tu veux me révéler sur qui je suis en toi ? Tant qu'on est dans l'abandon, ça sera compliqué d'aller plus loin. Parce que c'est la première clé au travers du sacrifice de Jésus et de l'avenue de l'Esprit, comme on l'a lu dans Romains. Vous êtes désormais adoptés, fils et filles du Père. Alors je sais que ça peut être compliqué à comprendre, notamment quand on a des histoires familiales où il y a eu des choses complexes qui sont vécues. Peut-être qu'on n'a pas eu de père, peut-être qu'on n'a pas eu de parents tout court, peut-être qu'on a eu des abus. Et moi, je ne peux pas faire la démarche à votre place. Bruno ne pourra pas faire la démarche à votre place. Damien non plus. La démarche, c'est à vous de la faire. Et d'aller auprès de Jésus et d'aller auprès du Saint-Esprit pour lui demander, OK, il y a des choses dans ma vie, je sens, il y a dans les profondeurs de ma vie, il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. Qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné en toi ? Qu'est-ce que tu veux dénouer, délivrer en moi ? On a des murailles aussi dans nos cœurs parfois, peut-être liées aussi à des histoires familiales. Ça peut être la muraille de la crainte, de la peur. On en parlait au tout début, ça s'est révélé chez beaucoup dans cette période. Ça peut être des murailles autour de l'amertume, de la haine, de la colère. Ça peut être des murailles liées à tout ce qui est péché sexuel, parce qu'on ouvre des axes de nos vies, où du coup, là, quand l'ennemi rentre, il vient bien s'implanter. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'occultisme. Et là, je mets tout en vrac dedans, je ne distingue pas, c'est tout ce qui touche à l'occultisme. Ça, c'est quatre murailles. À un moment donné, quand on a ces choses-là, il y a besoin d'une véritable guérison et délivrance en lien avec le Saint-Esprit. Ça peut être aussi tous les mensonges et les fausses vérités qui sont ancrées en nous. C'est ce que moi j'intitule la mentalité de pauvre, la mentalité de victime. En Christ, vous n'êtes pas appelé à avoir cette mentalité. Jésus ici-bas n'a jamais eu cette mentalité. Il a eu une mentalité de vainqueur et il a eu une mentalité de prospérité. Je ne parle pas de notion financière quand je dis ça. C'est vraiment de manière globale, corps, âme, esprit et dans le cœur. Vers quoi votre attention se porte-t-elle finalement ? Est-ce que dans ce qu'on porte comme attention et comme regard, est-ce que c'est là pour attirer la lumière ? Est-ce que ça attire la lumière en nous ? Ou au contraire, est-ce que ça attire les ténèbres ? Parce qu'il n'y a pas trois chemins hein, ou quatre chemins, il n'y en a que deux. Hein. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Et si vous avez l'impression de ne pas entendre le Saint-Esprit à un moment donné, je veux vraiment vous encourager à persévérer et à lui demander de se révéler à vous. Le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, c'est comme une personne, c'est comme un ami. Et quand on construit une amitié avec quelqu'un, ça part de nos deux entités. Et ce qui va se vivre dans notre amitié, ça nous appartient à chacun de nous. Et le Saint-Esprit va fonctionner comme ça avec vous. Avec moi, il va fonctionner d'une manière, il va me parler d'une manière. Avec Damien, ça va être autrement. Avec Doria, J.R. Brudo, ça sera encore d'autres façons de faire. Donc il y a des moments, il faut juste qu'on apprenne à trouver quelle est la bonne fréquence sur laquelle il veut nous parler. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est jamais fermé. La radio est jamais en panne avec le Saint-Esprit. Peut-être que du coup, il faut changer de fréquence. Peut-être que ce n'est pas par la radio, c'est par un autre canal qui veut vous parler. Bien sûr, c'est imagé. Et je veux vraiment voilà, vous encourager à pouvoir aussi vous poser cette question. Finalement, au fond de moi, qu'est-ce qui me gouverne ? Est-ce que c'est pleinement la vie en Jésus par le Saint-Esprit ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui me gouvernent et qui sont reliées à des attaches de mort ? Et je vais demander au groupe de louange, vous pouvez revenir, il y avait un dernier chant, je pense que c'est Abba Père, donc du coup ça correspondra bien. Et on va prier juste avant qu'ils prennent le chant par rapport à ce que j'ai pu... partager. Seigneur, je veux te remercier parce qu'on est rassemblés ensemble. Merci parce que tu nous permets de nous retrouver. C'est vrai que c'est une grâce, c'est une joie d'être là. On veut aussi être conscient de ce que tu es en train de nous dire dans cette saison et on veut être conscient de la saison aussi qui est à venir. Père, nous sommes à l'écoute de ton cœur et de ton esprit et nous sommes bien conscients que ce que nous vivons actuellement n'est pas anodin et n'est pas juste relié aussi à notre assemblée ici. C'est un mouvement global aussi que tu es en train d'initier chez beaucoup. Et cette interpellation, on te remercie parce que tu es en train de la confirmer dans beaucoup de familles d'église, dans beaucoup de cœurs de personnes qui sont engagées avec toi. Père, on ne veut pas manquer ce rendez-vous avec toi d'alignement de nos cœurs avec ton Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, ma prière pour chacun, Seigneur, ce matin-là, c'est viens te révéler et viens montrer au plus profond des cœurs ce que tu souhaites voir réaligné en ces temps. Merci pour la manière dont tu vas agir dans les cœurs, Saint-Esprit. Merci pour ta douceur, ton amitié, ta pédagogie avec chacun de nous. Amen.